Vous écoutez bien Radio France Internationale, midi et demi en temps universel, il est 13h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. 2 ans après en avoir été chassé, l'armée soudanaise a annoncé ce matin avoir repris le palais présidentiel dans le centre de Khartoum. La bataille n'est pas terminée, assurent de leur côté les milices FSR qui parlent de dizaines de morts dans les combats. Netumbo Daintwa Nandi, investie ce matin présidente en Namibie, une femme aux fonctions suprêmes, c'est une première dans la jeune histoire de ce pays d'Afrique australe. Une femme prend également la tête du comité international olympique, l'ancienne nageuse zimbabwéenne Kirsty Coventry, 41 ans. Elle a été élue hier haut la main dès le premier tour. Ses premiers jeux seront ceux de la jeunesse à Dakar l'an prochain. Ils lui tiennent particulièrement à cœur, nous l'entendrons. L'armée soudanaise annonce avoir repris ce matin le palais présidentiel des mains des FSR, les forces de soutien rapide qui en avaient pris possession au début de la guerre en avril 2023. Paul Lorgerie, le palais est donc repris après des semaines d'âpres combats dans les rues de Khartoum, mais les FSR refusent d'admettre leur défaite.
Oui Nicolas, en fin de matinée, les forces de soutien rapide, les FSR, ont fait savoir que la bataille pour le palais présidentiel n'est, je cite, pas terminée. Une annonce qui intervient après une frappe de drone sur le lieu du pouvoir qui a tué 3 journalistes de la télévision nationale. Quelques heures plus tôt, l'état-major avait bien confirmé s'être emparé de ce lieu à la portée hautement symbolique. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des soldats en liesse, brandissant armes et drapeaux soudanais, au milieu des débris du palais présidentiel ou de moins ce qu'il en reste. Je cite, « Nos forces ont complètement détruit les combattants et les équipements de l'ennemi et ont saisi de grandes quantités d'équipements et d'armes », a précisé le général Nabil Abdallah, porte-parole de l'armée à la télévision nationale. Alors selon le média Sudan War Monitor, l'opération avait commencé dimanche par un encerclement des paramilitaires du général Emeti, dit Daglo. Ce dernier avait alors appelé ses éléments à tenir leur position. Mais mercredi soir, nombre d'entre eux ont tenté de fuir et de percer la ligne de l'armée soudanaise. D'après une source sécuritaire contactée hier par l'AFP, un convoi de 30 véhicules des FSR qui avait essayé de se replier vers le sud a été détruit.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, nous appellerons Roland Marchal, chercheur à Sciences Po et spécialiste du Soudan. Il est notre invité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les tirs ont cessé ce matin à Walikale Centre. Les rebelles de la FCM-23 ont pris le contrôle de cette cité, chef-lieu du territoire du même nom. On est au nord Kivu, à environ 400 kilomètres à l'est de Kisangani, sur la route nationale numéro 3. Les tirs ont cessé, mais la situation reste très tendue, notamment sur les axes environnants. Ce matin, aucune activité n'avait repris. La population n'est pas sortie. Patient Ligodi, quelle est la situation à l'heure actuelle ?
Walikale Centre, ce matin, un calme précaire, mais la peur est encore bien là. Les combattants du M23 contrôlent désormais la cité. Dans certains quartiers comme Kantepe ou Kissima, la tension est toujours palpable. Cet avant-midi encore, des corps étaient visibles, à même le sol, de combattants mais aussi des civils tués lors des violents affrontements. La base de Médecins Sans Frontières a été prise entre les tirs croisés. Le personnel est sain et sauf, mais toujours confiné. Les activités sont suspendues en attendant que la sécurité soit garantie. Face à l'insécurité, les habitants fuient. Depuis hier, des déplacés arrivent à Lubutu, dans la province voisine de Maniema, à plus de 200 kilomètres. Certaines viennent donc de Walikale Centre, d'autres de Mubi, une localité voisine où des pillages ont été signalés. On les voit marcher à pied, d'autres fuient à moto. Certains prennent même la route vers Kisangani, à plus de 400 kilomètres. Mais dans ce contexte, une position reste entre les mains de l'armée congolaise, la base militaire située à Biroué, à une 60aine de kilomètres de Walikale Centre.
La Namibie a une nouvelle présidente, Netumbo Nandi Ndaitwa, déclarée élue au terme d'élections contestées en novembre, a prêté serment ce matin à Windhoek. Les présidents sud-africains, angolais, ainsi que la présidente tanzanienne ont fait le déplacement dans la capitale namibienne. NNN, comme elle est surnommée, devient la 5e chef d'État depuis l'indépendance. Première femme élue présidente en Namibie, Christina Okello.
Oui, et c'est une journée qualifiée d'historique pour la Namibie. Des applaudissements ont retenti à Windhoek quand Netumbo Nandi-Ndaitwah a prêté serment. Mais cette fille d'un pasteur anglican a demandé au public de ne pas l'applaudir. Elle a préféré rendre hommage à celles qui l'ont précédée. Ellen Johnson Sirleaf de Liberia, Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie. Elles m'ont préparé le chemin, a-t-elle déclaré. NNN, comme on l'appelle, a aussi salué le père fondateur de la Namibie, Sam Nujoma, décédé il y a trois semaine et Hage Geingob, disparu l'an dernier. Elle a remercié son prédécesseur, N'Golo Mbumba, et a repris l'une de ses phrases « Une nouvelle ère s'ouvre sur notre beau pays. Pour construire cette nouvelle ère, elle fixe ses priorités, réunir la nation, créer des emplois, renforcer l'éducation et surtout lutter contre la corruption. NNN tend aussi la main à l'opposition. Je servirai tous les Namibiens, quelle que soit leur affiliation politique. » Et face aux critiques, elle répond « Je n'ai pas été élue parce que je suis une femme, mais parce que j'en suis capable. »
En Tunisie, le Premier ministre Kamel Madouri, en fonction depuis moins d'un an, a été limogé par le président Kais Saied. Il est remplacé par une femme, Zahra Zaafrani Zanzri, ancienne ministre de l'Équipement et de l'Habitat. Au Burkina Faso, le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur des messages de haine diffusés sur les réseaux sociaux, des messages d'appel au meurtre contre la communauté Peul, Frédéric Gara.
Dans son communiqué, Bakouli Blaise Bazier, le procureur du Faso, constate que des messages appelant à l'extermination, je cite, d'une communauté précise, sont diffusés sur plusieurs pages Facebook et sur des profils d'internautes. Des messages haineux qui rappellent le procureur sont passibles de lourdes sanctions selon le code pénal. Les messages en question ciblent la communauté Peul avec des slogans sans aucune équivoque du type Opération Zéro Peul dans les 45 provinces du Faso. Cette annonce d'une enquête et d'éventuelles poursuites contre les auteurs de ces messages intervient après un nouvel épisode d'expédition punitive contre la communauté Peul. Ainsi, à Solenzo, le 10 mars dernier, plusieurs bataillons d'intervention rapide et des volontaires pour la défense de la patrie se sont livrés à une rafle massive de villageois Peul. Sur les réseaux sociaux, filmés par les auteurs de cette razzia, on peut clairement voir des dizaines de villageois ligotés, molestés ou assassinés. On distingue également des VDP de la ville voisine de Kouka, s'en prendre à ces populations désarmées de vieillards, de femmes et d'enfants. De quoi alimenter la réflexion des enquêteurs, diligentée depuis ce jeudi par le procureur Bazier.
Au Mali, cela fait tout juste une semaine qu'Alou Badra Sakho a été enlevé en plein cœur de Bamako par des hommes encagoulés. Selon nos informations, il serait depuis détenu par la sécurité d'État. Président du Front Touche pas à mon argent et coordinateur de l'appel du 20 février qui rassemble des organisations politiques et de la société civile pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alou Badra Sakho a disparu le 14 mars après avoir animé une réunion pour contester les nouvelles taxes sur les services téléphoniques. Depuis, David Bachet, plus aucune nouvelle.
Non, ses proches ignorent où il est, comment il est traité. Alou Badra Sakho, figure de la société civile malienne, est détenu depuis une semaine dans une prison secrète de la sécurité d'État. Abdoulaye Traoré est le président du parti RJS, membre de l'appel du 20 février dont Alou Badra Sakho est coordinateur et il est extrêmement inquiet.
Nous avons peur pour d'abord sa sécurité, pour sa survie. C'est quand même un vieux de plus de 60 ans et qui est atteint de deux maladies chroniques. Il a non seulement l'hypertension, mais il a aussi le diabète.
Alou Badra Sakho a été enlevé après avoir organisé une réunion du Front Touche pas à mon argent pour contester les nouvelles taxes entrées en application au début du mois sur l'achat de crédits téléphoniques et sur les transferts d'argent par mobile monnaie. Les autorités maliennes de transition assurent que ces taxes financeront des projets sociaux, mais de nombreuses organisations politiques et de la société civile dénoncent un système de gestion opaque et un poids trop lourd pour les Maliens déjà confrontés à la vie chère et aux coupures d'électricité. Au-delà de ce combat, Abdoulaye Traoré du RJS et de l'appel du 20 février dénonce le climat de terreur entretenu par les autorités.
Nous sommes écœurés par ces énièmes enlèvements. Nous avons des camarades politiques, des camarades de la société civile qui se font enlever en plein cœur de Bamako par des gens cagoulés, armés, non identifiés. Le droit de l'homme n'est plus respecté dans notre pays.
Depuis cet enlèvement, les activités prévues par le Front Touche pas à mon argent, une conférence de presse notamment, ont été reportées, mais pas abandonnées, assurent ses membres.
En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté mercredi une nouvelle loi visant à contrôler la création et le fonctionnement des organisations de la société civile, parmi lesquelles les associations religieuses. L'un des objectifs affichés est la lutte contre le blanchiment de capitaux. Mais cette nouvelle loi est largement décriée. Des aménagements sont nécessaires, estime ainsi le révérend Robert Yaye Dion, qui préside le consistoire des églises évangéliques de Côte d'Ivoire.
Sur le plan éthique, il y a beaucoup de bonnes choses dedans qui permettent d'organiser. C'est pas mauvais. Mais sur certains plans, il faut aménager. Un agent de l'État va rentrer dans l'église et contrôler la dîme. On dit, bon, la dîme qui a donné? Quel est son nom? Il est où? Est-ce que c'est pas blanchiment? Alors quand on mélange avec les organisations malfrates qui font du blanchiment, bon, ça met mal à l'aise. Je pense que faut former pour que la décision ne soit pas contraignante. Et nous autres qui avons des grandes églises organisées, on a commencé à faire former nos gens, former l'administration, mieux organiser, mieux outiller. Pour nous, on ne trouve pas ça trop de problèmes, mais pour les petites communautés qui naissent, c'est des difficultés. C'est pourquoi nous avons fait certaines suggestions pour qu'il y ait quelques aménagements. On ne s'oppose pas à la loi, mais il faut des aménagements.
Des propos recueillis par Binta Diagne. Il est midi 41 à Abidjan.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, on revient bien sûr sur l'élection de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry à la tête du Comité international olympique. Et puis sur les éliminatoires du Mondial de football 2026, suite de la cinquième journée ce vendredi pour la zone Afrique. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi au Gabon, l'attente se poursuit pour les candidats recalés dans la course à la présidentielle du 12 avril prochain. 13 d'entre eux ont saisi la Cour constitutionnelle qui devait rendre sa décision sous huitaine. La décision de la Cour était attendue hier, mais elle n'est pas encore tombée. Selon une source proche de l'institution, elle notifiera sa décision à chacun des requérants et toutes les notifications seront ensuite publiées au journal officiel à une date qui n'a pas encore été précisée. En France, un réseau de passeurs de migrants qui passaient par les petites routes de montagne entre la France et l'Espagne a été démantelé. 15 personnes sont interpellées, annonce du procureur de la République de Marseille. Dans le sud de la France, les migrants, la plupart de nationalité algérienne ou originaire d'Afrique subsaharienne, étaient pris en charge en Catalogne, près de la frontière française, et conduits jusqu'à la gare de Perpignan à travers la montagne. Elle faisait partie des favorites à la succession de Thomas Bach et elle y est parvenue haut la main. L'ancienne nageuse zimbabwéenne Kirsty Coventry, 41 ans, est devenue hier la première présidente du Comité international olympique. Elle a remporté l'élection à la majorité absolue dès le premier tour de scrutin. 49 voix sur 97 votants, 28 pour l'Espagnol Juan Antonio Samaranch Jr. L'ancienne championne olympique du 200 mètres d'eau est la première femme et première africaine à obtenir le poste. Et cette élection est une source d'inspiration pour tout le continent, estime le journaliste sportif kényan Elias Makobi, qui couvrait hier l'élection pour le site en ligne Pura Vida Sports.
This is huge for Africa because
c'est énorme pour l'Afrique parce que Kirsty est une icône. Elle est née au Zimbabwe, elle y a vécu toute sa vie. Elle a commencé à nager quand elle était enfant. Elle a remporté des médailles pour le Zimbabwe et elle est passionnée par le sport africain. Et elle est la ministre des sports au Zimbabwe. Donc, ça va réellement encourager non seulement les femmes, mais tout le monde en Afrique qui rêve d'avoir un rôle de grand leader. Et ça va également encourager la performance. En plus, ça arrive à un moment où Dakar accueille les Jeux Olympiques de la jeunesse l'année prochaine. Je crois que cela donnera un plus grand élan à l'événement et ça donnera également à l'Afrique une plus grande envie d'accueillir les Jeux Olympiques. Rappelez-vous qu'en 2004, le Cap était l'un des sérieux candidats pour l'organisation des Jeux Olympiques, mais il a perdu face à Athènes. Alors il est peut-être temps maintenant, grâce à Madame Coventry, l'Afrique a accueilli la Coupe du Monde de football en 2010 avec beaucoup de succès. L'Afrique a un président du CIO, je ne vois pas pourquoi l'Afrique ne pourrait pas accueillir les Jeux Olympiques.
Oui, Kirsty Coventry aura l'occasion de vivre l'un de ses premiers Jeux Olympiques en tant que présidente du CIO à Dakar avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, dont elle préside d'ailleurs la commission de coordination. Une belle manière de montrer l'implication de l'Afrique, continent où elle espère que l'idéal olympique va se répandre davantage.
Dakar 2026 is, as they have said, going to be welcoming the world.
Dakar 2026 va accueillir le monde. Je préside cette commission depuis quelques années et je suis vraiment fière et enthousiaste du travail qu'ils accomplissent. Et je sais que ce sera un moment incroyable pour le monde de voir qui nous sommes en tant qu'Africains, ce que nous représentons, ce que nous défendons et comment nous sommes prêts à accueillir le monde. Quant au travail à faire pour répandre l'idéal olympique, il y en a toujours, mais cet honneur qui m'a été donné de servir notre mouvement va nous permettre d'avoir une plus grande portée, mais aussi de mettre en lumière de nouvelles régions. Et cela fait partie de l'unicité du mouvement olympique, de la diversité que nous avons tous. Et je crois sincèrement que cette décision aujourd'hui montre l'universalité et la mondialisation de notre mouvement.
Kirsty Coventry au micro de notre envoyé spécial Christophe Diremzian. Du football à présent avec la suite de la cinquième des dixièmes, des dix journées des éliminatoires du Mondial 2026. Avant de se projeter sur les matchs du jour, on commence Frédéric Suto par la belle victoire hier des Aigles du Mali.
Les Aigles qui jouaient gros face aux Comores, les Maliens devaient absolument l'emporter pour rester dans la course à cette qualification pour le Mondial dans un groupe I très serré. Le match se jouait au Maroc, les Maliens l'ont emporté 3-0, net et sans bavure, à la plus grande joie du sélectionneur Tom Saintfit.
Je suis très très très fier comme entraîneur de mon équipe, ce sont des joueurs avec beaucoup de qualités qui jouent très bien ensemble. Lundi, le prochain match au Casablanca contre Centrafrique République, pas facile, mais on sait qu'est-ce qu'on veut. On veut faire tout pour aller aux Coupes du Monde. Maintenant, on va préparer pour ça et ça va passer.
Ça va passer. Prochain match, effectivement, pour le Mali face à la Centrafrique lundi. Dans ce groupe, Madagascar mène le bal avec 10 points. Le Mali est quatrième, 8 points.
La cinquième journée se poursuit donc aujourd'hui avec 11 matchs au programme.
Dans le groupe B, les Léopards de la République démocratique du Congo, troisième pour l'instant derrière le Soudan et le Sénégal qui s'affrontent demain. Les Léopards reçoivent tout à l'heure le Soudan du Sud à Kinshasa. Les Congolais pourront compter sur leur attaquant Cédric Bakambu qui n'avait plus été appelé depuis un an.
Moi je suis content. Je suis content de revenir en sélection nationale après plus d'une année. C'était long pour moi. J'ai eu une grave blessure. Il va falloir que je reproduise ce que je fais en club, maintenant en équipe nationale, et je suis motivé pour le faire.
Un propos recueilli par Olga Massangou. Le Nigeria, de son côté, tentera de se relancer au Rwanda dans le groupe C. Le Burkina Faso, à la traîne dans le groupe A, reçoit le dernier Djibouti. Déplacement des éléphants de la Côte d'Ivoire au Burundi pour reprendre la tête du groupe F. La Guinée, elle, Nicolas, la Guinée dans le groupe G n'a plus le droit à l'erreur au moment d'affronter la Somalie, le sélectionneur du Sidi National, Michel Dussuyer.
Le temps est fini maintenant où on va donner des cartons à droite à gauche. La Somalie n'est pas une pointure africaine, on est d'accord avec ça. Maintenant, il s'agit pour nous d'aborder le match dans le bon sens, de respecter l'adversaire et arriver à faire des différences.
Michel Dussuyer, on notera encore Nicolas ce soir dans ses qualifs Coupe du Monde, Niger-Maroc.
De l'athlétisme pour finir, Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé, n'a pas réussi à conserver son titre de champion du monde en salle de triple saut à Nankin en Chine où se tiennent les mondiaux. Il a terminé troisième du concours derrière l'Italien Andy Diaz et le Chinois Yaming Zhu. Hugues Fabrice Zango, 31 ans, qui a annoncé il y a quelques semaines que cette saison serait pour lui la dernière. Il est 13h49. À Paris. Anne Kantner, les grands titres de ce vendredi 21 mars 2025.
La Cour suprême suspend la décision du Premier ministre de limoger le chef du Shin Bet en Israël, le service de renseignement intérieur. Critique de la politique de Benjamin Netanyahou, le président israélien avait émis hier soir une très rare critique lui aussi de cette décision de le limoger et des milliers de personnes ont manifesté dénonçant une dérive autoritaire de Benjamin Netanyahou. Et puis la France se dit opposée à toute forme d'annexion israélienne de Gaza. Déclaration après un ordre donné par le ministre israélien de la Défense demandant à ses soldats de saisir plus de territoires qui pourraient être annexés. Des bombardements en Ukraine et en Russie à 3 jours maintenant de l'ouverture prévue de discussions entre Kiev et Moscou. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir attaqué notamment une station de pompage de gaz à Soudja dans la région russe de Koursk, station détruite selon les autorités russes. La contestation se poursuit en Turquie avec de nouveaux appels à manifester aujourd'hui. 3e jour de mobilisation contre l'arrestation du très populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui devrait être désigné dimanche candidat de l'opposition pour la prochaine présidentielle. Et puis une arrestation en Italie, la collaboratrice d'un député européen, une interpellation de plus dans le cadre d'un nouveau scandale de corruption. La justice belge enquête sur des lobbyistes de l'entreprise chinoise Huawei. 2 ans après en avoir été chassé par les milices FSR, l'armée nationale soudanaise annonce ce matin avoir repris le palais présidentiel dans le centre de la capitale Khartoum, et ce, après une bataille acharnée avec les paramilitaires. On en parlait il y a quelques minutes. La bataille de Khartoum est-elle finie? Élément de réponse avec votre invité, Nicolas Sûr, Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris.
Bonjour Roland Marchal.
Bonjour.
L'armée nationale au palais présidentiel, c'est un symbole ou un véritable tournant dans la bataille de Khartoum?
Pour la bataille de Khartoum, c'est évidemment un acquis militaire important et un symbole. Mais pour l'ensemble de la crise au Soudan, on peut dire que oui, c'est un événement, mais c'est peut-être pas du tout la fin, la lumière au bout du tunnel, hein, de quelque manière que ce soit.
Les FSR disent que la bataille n'est pas terminée, la bataille pour le contrôle du palais présidentiel. Est-ce qu'elles ont la capacité de résister et de retourner la situation dans Khartoum?
Dans Khartoum, ça me paraît à l'heure actuelle hors de question. Ce qui est sûr, c'est qu'une bonne partie des hommes et peut-être un peu de matériel va réussir à quitter Khartoum et se replier vers l'ouest du pays, et que là-bas, les bases de la structure et le nombre de combattants des forces de soutien rapide sont beaucoup plus importants et peuvent permettre, disons, des combats acharnés et peut-être une contre-offensive.
C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très clairement l'armée nationale qui a l'avantage dans Khartoum, qui va reprendre le contrôle de la capitale.
Au risque de me répéter, je crois qu'il est important de souligner que l'armée nationale soudanaise est une armée qui se limite à certaines tâches et que ce sont des milices créées par les services de sécurité, par le parti, l'ancien parti au pouvoir, le parti du Congrès national et les islamistes qui mènent l'essentiel des combats dans la ville. Ce qui fait que le palais présidentiel va être repris ou est déjà repris, mais ce qui pose aussi une question, c'est que quel va être le comportement de ces milices dans les jours et les semaines qui viennent, et est-ce que l'alliance qui est réelle aujourd'hui avec l'armée officielle, que comme vous le dites, est-ce que cette alliance va perdurer quand il va falloir faire des choix politiques où des divisions très claires apparaîtront entre les ambitions des militaires, les ambitions des islamistes, et puis aussi des règlements ou des rapports de force locaux qui peseront. On voit déjà ce qui se passe à l'est du pays, et on peut donc s'inquiéter sur ce qui va se passer à Khartoum et au-delà.
Les combats se sont aussi intensifiés ces dernières semaines à El Fasher, la capitale du Darfour Nord, qui est assiégée depuis mai par les FSR. C'est la seule ville du Darfour qui échappe à leur contrôle. Le gouverneur du Darfour, Mini Minawi, déclare que l'armée et ses milices alliées ont repoussé avec succès les dernières attaques des FSR. Est-ce qu'on sait qui a l'avantage sur ce front du Darfour?
D'abord, bon, le Darfour est une région extrêmement grande. Il y a des zones qui continuent à être contrôlées par le gouvernement ou qui ne sont contrôlées par personne, de fait, hein, puisqu'elles n'ont pas d'enjeux militaires ou politiques importants. C'est vrai qu'El Fasher reste un point de fixation extrêmement important. Les forces de soutien rapide ont avancé autour de la ville et dans la ville. Donc les déclarations de Minawi sont à prendre avec, disons, une pincée de sel, et très certainement la défaite à Khartoum va inciter ses troupes à redoubler d'efforts pour prendre le contrôle de l'ancienne capitale du Grand Darfour et qui est aujourd'hui la capitale du Nord Darfour.
Est-ce que ce regain de combat est lié à la création annoncée par les FSR d'un gouvernement parallèle dans les régions qu'ils contrôlent? Est-ce que l'armée et ses alliés actuels tentent de couper court aux menaces de sécession?
Disons, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui parler de sécession. On a de fait une partition, mais qu'aucun des leaders des FSR ne désire. Hein. C'est simplement une situation militaire qui peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Par contre, c'est vrai que la prise d'El-Fasher donnerait une cohérence politique et territoriale à l'existence d'un gouvernement dont, je crois, le but essentiel est de porter une nouvelle série de réunions dans la région, donc dans la Grande Afrique de l'Est, et également de relancer un processus de négociation. Est-ce que ça va se faire? Il est trop tôt pour le dire, d'autant que les déclarations des militaires après avoir regagné Khartoum sont aujourd'hui extrêmement radicales.
Merci Roland Marchal. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr. Et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et on part à présent pour Berbérati, dans le sud-ouest de la France, de la Centrafrique. L'Agence française de développement, l'AFD, 4 ONG et le ministère centrafricain de l'éducation nationale viennent d'y lancer le projet Éducation pour tous. Il vise ce projet à permettre aux jeunes qui ne sont pas allés à l'école ou très peu de revenir dans le cursus scolaire pour compléter leur cycle primaire. À Berbérati, le reportage de Rolf-Steve Donialeux.
10 heures à l'école d'application préfectorale de Berbérati. Ce matin, les élèves du cours moyen 1 entendent un chant qui prône les vertus de la discipline scolaire. Un sourire sur le visage, Caleb, 12 ans, est heureux de revenir sur les bancs de l'école.
Je suis content de revenir à l'école après les multiples sensibilisations. J'avais arrêté pour me consacrer aux activités diamantifères. Je faisais ce travail pour soutenir ma famille. Maintenant, je dois me concentrer sur l'éducation.
La cour de l'école grouille de monde à 7 heures de la journée, contrairement à d'habitude où le silence règne à l'heure des cours. Comme Justine, plusieurs élèves font leur retour après avoir été convaincus du rôle crucial de l'école.
Prenons mon exemple. Auparavant, je ne voyais pas l'importance de l'école. Dans notre région, beaucoup de filles sont forcées de se consacrer aux activités ménagères et champêtres sans être payées. Nous avons été sensibilisés par les ONG sur l'importance de l'école comme un levier de développement pour notre localité.
5 sous-préfectures de la République centrafricaine sont concernées par le projet. Berbérati Gamboula, Sosona Kombo, Dédé Mokouba et Carnot. Bruno Fouché est ambassadeur de France en Centrafrique.
Un programme important parce qu'il va toucher au global 21 500 élèves, 50 écoles, tout ceci dans 5 sous-préfectures et il va durer 2 ans hein, puisqu'au total le coût du programme sera de 13 millions d'euros.
13 millions d'euros, soit plus de 8 milliards de francs CFA. Ce projet est mis en œuvre par les ONG Mercy Corps, Alima, FinChurch Aid et l'Organisation des femmes centrafricaines OFCA. Marcel Diangdamba est le représentant de l'ONG FinChurch Aid.
Les 4 ONG vont procéder à la construction des salles de classe, la réhabilitation également des salles de classe. On aura la construction des forages dans ces écoles. Nous allons également procéder à la construction des latrines, la construction et l'appui même des centres de santé en disponibilisant les pharmacies dans des écoles pour la prise en charge médicale à travers l'ONG Alima.
Le projet Éducation pour tous prendra également en compte la formation des enseignants et le développement des activités génératrices de revenus. Le ministère de l'Éducation salue le programme et demande sa pérennisation dans toutes les régions du pays. Rolf-Steve Domialeux, de retour de Berbérati, RFI.
Et c'est à Berbérati que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Corot, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Vous restez sur RFI. Dans un peu plus d'une minute maintenant, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. A tout de suite.
Religion du monde. Véronique Guémard.
La chute du régime de Bachar al-Assad a suscité beaucoup d'espoir parmi les habitants et les nombreux réfugiés qui avaient fui les combats. Mais de nouvelles violences ont assombri les perspectives de paix dans un pays très divisé, avec une mosaïque confessionnelle et ethnique complexe, instrumentalisée par certains groupes.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.
Camino Real et RFI Talent présentent Tamayo avec The Paris Latin Orchestra en concert. Retrouvez les gardiens de la scène salsa parisienne sur la scène du Romeo Club à Paris le 27 mars à partir de 19h. Plus d'infos sur la page Instagram Tamayo Musique.